Podcast La Première.
Bonjour, Jacques-Olivier au micro pour un troisième mémo câblé. Nous allons retrouver Christophe Lejeune pour poursuivre en sa compagnie l'histoire d'Internet, une histoire que nous avons laissée à la fin des années 1980, moment où sont en place déjà des réseaux ARPANET ou Usenet aux États-Unis qui vont s'interconnecter pour donner Internet. Mais ces réseaux concernent encore exclusivement des spécialistes attachés souvent à des institutions. Cela n'empêche pas au demeurant de voir émerger des conceptions différentes quand il s'agit de penser à faire évoluer l'Internet et à la place et au rôle que doivent y tenir les internautes. C'est ainsi qu'apparaît dès le début des années 80 le mouvement du logiciel libre où la propriété est collective puisqu'elle résulte des apports de chacun, mais où chacun précisément garde un droit de paternité à défaut d'un droit de propriété. C'est sur cette base que se répand entre autres, et à partir du début des années 90, le système Linux. Mais le début de ces années 90, précisément, c'est aussi le moment d'un nouveau pas en avant décisif, et, une fois n'est pas coutume peut-être, ce sera d'abord le fait de l'Europe. Christophe Lejeune.
C'est intéressant de voir, comme vous l'avez souligné, que là où on parle souvent d'Internet comme d'une production purement américaine, ben, un des éléments quand même déterminants est inventé par un Anglais et un petit Belge, hein, enfin pas si petit que ça, Robert Caillot et Tim Berners-Lee vont inventer le World Wide Web. Alors quel est le contexte à l'époque ?
Une petite anecdote là-dessus que j'ai lue de la part de Robert Caillot qui dit on cherchait un nom qui ne fasse pas référence à la mythologie grecque pour une fois. Et alors Berners-Lee a proposé le World Wide Web. J'ai trouvé ça génial, sauf que c'est imprononçable pour un francophone.
Et donc oui, le World Wide Web, la plupart d'entre nous voient vaguement de quoi il s'agit.
C'est les 3W.
C'est les 3W au début des adresses. Alors de quoi s'agit-il précisément ? On a la tuyauterie, mais il nous manquait encore la façon de mettre en relation les documents textuels au début, mais on va pouvoir mettre d'autres contenus en lien, et de faire des liens entre ces différents textes. Il faut savoir qu'au début, Tim Berners-Lee et Robert Caillot réfléchissaient à gérer toute la documentation technique qui était accumulée au CERN. Donc au début, leur création n'avait pas vocation à avoir le succès qu'il a eu. Donc c'est quoi cette invention ?
On peut dire que ça concernait plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui un intranet. Hein,
c'est ça.
C'est d'interconnecter les ordinateurs du CERN.
C'est ça.
Leur permettre d'échanger des informations.
Des informations, voilà, c'est ça. Et donc cette invention concerne, on a déjà parlé un petit peu de protocole, mais concerne un protocole, donc une façon de faire dialoguer des machines, s'appuyant sur les tuyaux préexistants, donc c'est le protocole HTTP. Là aussi, même si on n'a pas de notion technique, HTTP, ça nous dit quelque chose, puisque beaucoup d'adresses, presque toutes les adresses que l'on saisit dans un navigateur, commencent par HTTP. Et c'est en plus de ce protocole, donc cette façon de transmettre de l'information à travers les tuyaux, c'est un langage de description de documents, l'HTML. Et là aussi, HTML, ça nous dit quelque chose, puisqu'à la fin des adresses, souvent, on a ces lettres qui apparaissent. Et donc, l'invention de ce langage de formatage et de description de documents à l'intérieur duquel on peut mettre des hyperliens, donc des liens d'un texte à l'autre, l'HTML, et le protocole HTTP, constitue cette invention, toute fin des années 80, en 1989, donc il y a déjà plus de 20 ans, qui va vraiment mettre, j'ai envie de dire, la dernière couche technique pour finaliser l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Jusqu'ici, il y avait, on a parlé de la tuyauterie, on a parlé de protocole, mais on restait face à des applications qui sont loin de l'Internet grand public. Ici, on arrive à un Internet qui commence à ressembler, qui commence seulement, mais qui commence à ressembler à ce que nous découvrons quand nous allons sur Internet. Cela dit, à l'époque, l'Internet n'est pas encore fréquenté par beaucoup de monde. Le World Wide Web non plus, et c'est bien logique puisqu'il vient d'être inventé. Il va falloir attendre quelques temps pour que les choses se popularisent et pour qu'on puisse réellement surfer sur Internet. Notamment, il va falloir attendre que soit disponible...
Oui, mais je dirais bien que c'est ça qui permet le surf.
Hein. C'est ça qui permet le surf. Hein. J'allais peut-être aller un petit peu vite en besogne, mais cette façon de transmettre de l'information sur Internet, d'échanger de l'information et de lier des pages l'une entre elles, rend possible ce qu'on appelle aujourd'hui surfer sur Internet, puisque le surf, j'allais dire la métaphore, mais ce n'est plus une métaphore maintenant, hein, c'est passé dans le langage courant, décrit bien le fait de parcourir des pages et d'aller d'une page à l'autre en empruntant ces liens. Hein,
quand on clique sur un mot, on clique sur une adresse en fait.
C'est ça. Donc l'hyperlien, c'est quoi derrière ce mot, dans le langage HTML en question, est caché une adresse et quand on actionne le lien, on se rend sur une autre page qui peut être sur le même serveur ou sur n'importe quel serveur connecté sur la planète. Et donc, fin 1989, on a cette invention qui rend possible le surf. Mais avant que beaucoup de personnes puissent surfer sur Internet, il va falloir attendre que des outils soient disponibles pour surfer. Parce que jusqu'ici, on est en train de décrire des pages, des serveurs. Mais pour pouvoir visualiser ces pages, il faut des logiciels informatiques qui s'appellent les navigateurs, les browsers. Et il faut attendre quelques années pour que le navigateur Mosaic soit publié en 1993 par Eric Bina et Marc Andreessen. Et ce navigateur Mosaic, dont la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu parler, est important. Pourquoi ? Parce que c'est l'ancêtre, en quelque sorte, de Netscape. Et Netscape est lui-même l'ancêtre d'un navigateur qui, aujourd'hui, est devenu assez connu, qui est le navigateur Firefox.
Nous en sommes toujours, au début des années 90, à un Internet institutionnel, hein, dirais-je.
Tout à fait.
Il va falloir que, de façon concomitante, se développe la micro-informatique cette fois-ci, le PC, hein, le personal computer, qui, au fond, va permettre la démocratisation de cet usage de l'Internet.
C'est ça, il va falloir attendre deux choses. D'une part, que les particuliers soient équipés en matériel, mais il va falloir aussi que ces ordinateurs soient raccordés à l'Internet, ce qui n'est pas encore fait. Et donc cette connexion des particuliers à l'Internet, c'est un processus qui va se dérouler pendant plusieurs années. Et il y a un événement qui vaut la peine qu'on le souligne, alors qui concerne une frange particulière des utilisateurs. C'est monsieur et madame tout le monde, au sens qu'il ne s'agit plus d'un public institutionnel. Mais ce n'est pas monsieur et madame tout le monde au sens où on l'entend aujourd'hui, puisqu'il va s'agir d'une frange particulière d'utilisateurs de l'informatique qui sont les joueurs. En effet, il y a une firme aux États-Unis, America Online, qui fournit un service de distribution de jeux via un boîtier particulier qui correspond un petit peu aux boîtes qu'on voit aujourd'hui fleurir dans les salons pour donner des abonnements à l'Internet haut débit. Là, à l'époque, on n'en est pas encore au haut débit. Il s'agit de boîtes qui peuvent aussi rappeler des boîtiers pour s'abonner à certaines télévisions cryptées. Et là, on n'est ni dans la DSL, ni dans la télévision cryptée. Il s'agit de distribuer des jeux vidéo. Et donc, America Online fournit sur abonnement un accès à des distributions de jeux vidéo. Les clients d'America Online sont donc particuliers à plusieurs égards. C'est majoritairement, voire principalement, des Américains. Et ce sont des personnes qui sont suffisamment intéressées par les jeux vidéo pour s'offrir ce genre d'abonnement. Et en plus des nombreux jeux qui sont fournis par America Online, AOL va un jour fournir un service supplémentaire qui va être une passerelle vers les forums de discussion qui sont disponibles sur Internet, dont on a déjà parlé, hein, le réseau Usenet. Et cette passerelle entre le monde de monsieur et madame tout le monde et ce réseau qui est jusque-là réservé à des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises, dans des universités et donc à des acteurs institutionnels, va être un moment charnière dans l'histoire de la démocratisation de l'Internet. Ça ne va pas se passer aussi facilement qu'on pourrait le croire, puisque le public qui est abonné à ce boîtier particulier est un public intéressé par les nouvelles technologies, intéressé par l'innovation en général. Et donc l'arrivée d'un nouveau service qui donne accès à quelque chose qui n'est peut-être pas aussi technologiquement tape à l'œil que les jeux vidéo, mais qui constitue bien une nouveauté, pouvoir aller sur des forums de discussion, discuter avec des personnes qui sont branchées sur ce réseau institutionnel, Usenet et ARPANET, c'est quelque chose qui en attire plus d'un. Et donc, pas mal de ces joueurs, de ces clients d'AOL, vont tenter le coup, vont aller voir ce qui se passe sur ces forums de discussion. Et quand je dis tenter le coup, pour beaucoup d'entre eux, il va s'agir simplement d'aller voir ce qui s'y raconte, donc j'ai envie de dire de manière simplement passive dans un premier temps, aller voir de quoi ça a l'air, ce qui se trame là-bas. Et puis très vite, évidemment, ils vont avoir l'envie d'eux aussi être actifs, de participer à la discussion et de voir simplement si ça marche, si eux aussi peuvent poster un message sur ces forums de discussion. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on va voir fleurir énormément de messages sur les forums Usenet, qui sont simplement des messages qui ont comme vocation de voir si ça marche, de dire « Salut les gars,
je suis là. » Oui. «
Coucou, je suis là. » Alors, ces messages qui disent « Coucou, je suis là », ils vont, dans un premier temps, étonner et à la longue, un peu...
Légèrement irrités.
Le public des utilisateurs de Usenet. On peut rappeler qu'à l'époque, qui est-ce qu'on a sur le réseau Usenet ? Des chercheurs universitaires, des acteurs institutionnels, historiquement les utilisateurs de machines Unix, qui ont cette culture de partage, mais de partage entre pairs, PAIR, c'est-à-dire entre ingénieurs, physiciens, électroniciens, spécialistes en technologie. Donc quand on poste un message, c'est pour poser une question, éventuellement pour donner une astuce ou une piste de solution. Ça peut être aussi, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus...
On essaye d'être utile.
Alors il y a aussi des discussions qui sont moins techniques, puisque dès la naissance des forums de discussion, aussi bien sur ARPANET que sur Usenet, les personnes qui sont actives dans les discussions techniques n'hésite pas à ouvrir parfois des discussions sur des sujets qui leur tiennent à cœur, mais qui peuvent être peut-être un petit peu moins orthodoxes. Il y a des discussions sur la science-fiction, il y a des discussions sur la littérature fantastique, sur les jeux vidéo, bref, sur certains sujets dans lesquels cette frange de la population se retrouve. Il ne faut pas non plus essayer d'enjoliver ou de mythifier le sérieux des discussions Usenet à l'époque. Mais dans tous les cas, quand on prend la parole, on respecte certaines règles de communication qui est qu'on ne poste pas un message juste pour dire « Coucou, je suis là ». Alors, quand les utilisateurs d'AOL débarquent, ils ne sont pas les premiers à se prendre les pieds dans le tapis. C'est qu'en fait, quelque chose qui arrive régulièrement sur ces réseaux qui sont fréquentés en grande partie par des universitaires. Puisque dans les universités, on avait déjà à cette époque-là pris l'habitude de donner la possibilité aux étudiants universitaires de se connecter au réseau ARPANET et Usenet. Ce qui veut dire que lors de la rentrée universitaire en septembre-octobre, depuis quelques années déjà, on voit apparaître quelques étudiants qui tentent le coup et qui se frottent à Usenet, à ARPANET. Ils ont le même profil professionnel, j'ai envie de dire, que les gens qui sont déjà là. Et ils sont quelque part parrainés, accueillis par les utilisateurs plus aguerris. Et on leur explique, il ne faut pas juste poster un message pour dire bonjour. Quand tu postes un message, c'est pour soit poser une question, soit pour apporter quelque chose.
Une espèce de culture, ARPANET et Usenet, qui est un peu différente, évidemment, comme on vous l'entend dire, de ces gens d'AOL, d'America Online, qui débarquent comme ils peuvent. Mais ceci dit, cette confrontation de culture, ce n'est pas la première. Encore une fois, on avait déjà parlé de cette vision des choses un peu différente entre les utilisateurs d'ARPANET et puis ceux de Usenet qui vont arriver par la suite. Voilà encore une troisième couche, je dirais, qui se superpose, qui est celle d'America Online, ou en tout cas des clients d'America Online qui vont tenter l'expérience du réseau. Mm-hmm. On voit des cultures différentes, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot peut-être, ou en tout cas c'est le meilleur pour désigner ça, des cultures différentes qui approchent l'outil.
C'est ça, et les tensions qui peuvent naître de cette confrontation entre des façons d'envisager les outils différentes, c'est quelque chose qui va se prolonger ensuite, puisqu'on n'en est pas encore au grand public comme aujourd'hui. Ces utilisateurs, ces clients d'AOL qui viennent se frotter aux utilisateurs de Usenet, et qu'ils ne vivent pas très bien dans un premier temps, puisqu'ils ne se sentent pas vraiment accueillis. Contrairement aux étudiants universitaires, ils arrivent en masse.
Et ils doivent se débrouiller.
Ils doivent se débrouiller. Et ce n'est pas toujours facile au début. Donc, ces utilisateurs-là qui débarquent à ce moment-là, ça ne se passe pas super bien pour eux. Mais ils vont progressivement prendre leur marque. Et à partir de là, le flux de nouveaux utilisateurs ne va jamais s'arrêter. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, eux-mêmes vont voir arriver, quelques mois, quelques années après eux, d'autres utilisateurs qui ne sont pas nécessairement aussi férus de nouvelles technologies qu'eux. Et ils vont connaître, mais de l'autre côté de la barrière, le même genre de confrontation qu'ils avaient vécu lorsqu'ils ont été accueillis ou non accueillis par certains utilisateurs de Usenet et d'ARPANET.
Oui. Il y a un petit côté élitiste, au fond, dans l'élaboration de tout ça, parce que si on occupe déjà la place, je veux dire, on fait un accueil assez mitigé aux
c'est
nouveaux.
C'est ça. En tout cas, on fait sentir à celui qui arrive qu'il ne maîtrise pas les codes et que ces codes existent. On lui fait remarquer que des codes existent, qu'il serait mieux qu'il intègre les codes avant de débarquer, puisqu'on a utilisé ce terme, sans faire attention. C'est quelque chose qui va être particulièrement présent dans ces premières confrontations, ARPANET, Usenet, puis Usenet, AOL, AOL et puis les suivants. On va avoir chaque fois comme ça un rapport entre les happy few.
Les initiés et les autres.
Les initiés et les autres, c'est assez clair. Et ces tensions et ce rapport initié-autre ne peut se comprendre que si on se rappelle bien qu'on part d'une histoire où ces réseaux étaient réservés à un nombre limité de personnes, d'une part, et des personnes qui avaient des profils relativement homogènes dans un premier temps. Au fur et à mesure de l'histoire d'Internet, les profils se diversifient, la base s'élargit, et donc ce sentiment d'élitisme, il est quelque part produit par cette simple juxtaposition d'un milieu relativement homogène et restreint en termes de nombre de personnes à un milieu qui est de plus en plus large. Alors en plus de ça, le fait que les premiers milieux, on va dire plus élitistes, revendiquent une certaine culture qu'on va dire, si on se rappelle qu'on a parlé pour Usenet d'une culture quelque part qui revendique une certaine égalité, une certaine démocratie, une certaine vision d'un idéal d'Internet qui nous a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Cette culture Usenet nous donne, est reprise aujourd'hui par les tenants d'une certaine vision optimiste, voire carrément utopiste d'Internet. Mais cette culture-là, elle est née à un moment où précisément le fait de dire « on est tous égaux » n'avait pas du tout les mêmes implications qu'elle peut avoir aujourd'hui. Dire qu'on est tous égaux quand on est tous ingénieurs en chef dans une grande entreprise américaine, ça ne veut pas dire la même chose que quand on dit « on est tous égaux » et que dans l'ensemble des personnes qui est recouvert par le tous, il y a des internautes africains utilisant le satellite, des ingénieurs chinois, des étudiants russes, etc., etc. Donc, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas juste une dimension culturelle ou idéologique, il y a aussi un terreau, j'ai envie de dire, matériel.
Il y a une réalité derrière.
Il y a une réalité derrière
qui
change. L'utilisateur d'Internet, si on pouvait le décrire comme ça d'une manière singulière, masque en fait des réalités qui sont différentes et qui vont évoluer au cours du temps. Et plus on avance dans la courte histoire d'Internet, plus on va vers une diversification, une démocratisation, un élargissement. Et donc, par des phénomènes, notamment comme celui de confrontation, celui qu'on a mentionné, de confrontation entre un groupe qui se vit comme une élite face à un groupe plus large, qui se vit comme n'ayant pas nécessairement moins de droits que l'élite, et qui va donc revendiquer...
Qui va essayer de se faire sa place, quoi.
C'est ça, c'est ça.
Pour fixer les esprits, on était en 1993.
Hein, c'est bien ça.
1993, c'est cette fameuse offre d'America Online. Je vous rappelle que l'histoire d'Internet nous est racontée par Christophe Lejeune. Bon, si on poursuit, évidemment, on assiste aussi graduellement au développement de l'informatique grand public.
Hein. C'est ça.
On assiste graduellement aussi dans ces années-là aux connexions. Hein, on va pouvoir se connecter à Internet via son fournisseur de téléphone, hein, pour commencer, oui. Je pense, de façon un peu générale. Mm-hmm. On voit probablement aussi le nombre de gens connectés augmenter. On voit par conséquent le nombre de choses possibles à consulter augmenter aussi.
Oui.
Donc on est devant une sorte d'inflation, là, finalement probablement assez rapide. Et on se dit, ben oui, d'accord, c'est amusant au début, le surf c'est plaisant, mais si je cherche quelque chose de précis, qu'est-ce que je fais ?
Alors c'est le problème qui va apparaître dans cette histoire d'Internet. Aujourd'hui, beaucoup de gens ouvrent leur ordinateur et commencent par faire une recherche sur un moteur de recherche. Or, les moteurs de recherche n'ont pas toujours été là. Et si on se replace en 1993, les moteurs de recherche ne sont pas encore là. Donc, va se poser la question de comment on peut essayer de fournir, si je peux me permettre la comparaison, l'atlas routier qui permet de s'y retrouver
sur
ces autoroutes de l'informatique.
Oui, ou chercher l'analogie avec les bibliothèques. Hein,
avec tout à fait. Et dans un premier temps, l'analogie avec les bibliothèques est la meilleure. On se rappelle peut-être de Paul Hautelet, qu'on a déjà évoqué préalablement. Paul Hautelet avait imaginé beaucoup de choses. Il avait imaginé une bibliothèque universelle, et en cela, il avait été le précurseur, le premier visionnaire d'Internet. Il avait imaginé une cité mondiale, il avait imaginé le mondanéum. Il avait aussi imaginé un système de rangement, de classement de l'information, qui est d'ailleurs utilisé encore dans certaines bibliothèques aujourd'hui. C'est ce système de classification décimale universelle, qui est en fait une généralisation d'un système qui avait été créé par un Américain, par Melville Dewey. Cette invention, qui date du début du XXe siècle, eh bien, elle va être réutilisée, elle va être appropriée par des personnes qui se posent la question de ben, comment est-ce qu'on va faire pour aider les personnes qui se connectent sur Internet, sur le World Wide Web, et qui cherchent une information. Et ces personnes, ce sont les premières personnes qui ont conçu des annuaires de sites Internet. Donc, avant les moteurs de recherche, on a l'apparition d'annuaires, et je pense notamment à un des plus célèbres, c'est Yahoo, qui est créé en 1994 par Jerry Yang et David Filo. Alors, les fondateurs des annuaires vont envisager plusieurs façons de classer l'information. La logique est toujours plus ou moins la même. On imagine de classer dans des rubriques hiérarchiques, donc du plus général au plus spécifique, des références de sites Internet. Mais la question qui se pose aux concepteurs d'annuaires, c'est mais quel nom va-t-on donner aux rubriques les plus générales ? Et ils vont faire plusieurs tentatives. Une des tentatives va être d'utiliser le système de Paul Otley, donc la classification décimale universelle. Et c'est un système qu'ils vont malheureusement, pour la postérité d'Otley, abandonner parce que il n'y a rien à faire. Les ressources qu'on trouve sur Internet ne sont pas strictement du même ordre que celles qu'on trouve dans des bibliothèques. Ils vont garder quand même l'idée d'un classement hiérarchique et ils vont se tourner vers une autre ressource qu'on a déjà croisée, c'est le réseau Usenet. On se rappelle peut-être que le réseau Usenet est un réseau qui permet d'échanger des messages. Ces messages sont regroupés dans des discussions. Et l'infrastructure technique qui était utilisée pour ces échanges de messages dans des files de discussion est au départ une infrastructure qui était utilisée pour échanger des bouts de code informatiques qui avaient été conçus pour compléter le système Unix. Autrement dit, les discussions Usenet sont structurées comme des répertoires informatiques de manière hiérarchique. Et cette répartition n'a pas été faite de manière arbitraire, on a regroupé les discussions par thème. Et donc l'idée des concepteurs d'annuaires, c'est de se dire, ben tiens, les informations qui sont présentes sur Internet, elles pourraient très bien correspondre, elles pourraient très bien être organisées, comme les discussions qu'on trouve sur Usenet. Finalement, les gens qui écrivent des pages sur Internet, c'est des gens qui partagent les mêmes genres de préoccupations que les personnes qui discutent sur Usenet. Et donc, ça va être une autre tentative de ventilation de l'information, d'organisation de l'information, c'est de regarder comment les groupes Usenet sont structurés et ça va marquer la façon dont s'organisent les annuaires. Donc, un annuaire marquant c'est, et qui est toujours très actif aujourd'hui, c'est Yahoo. Il va y avoir, parallèlement à cette mise sur pied des annuaires, d'autres tentatives.
Oui. Mais je vous arrête là-dessus tout de même parce que on a l'impression que c'est quand même un travail de fou. Parce qu'il faut aller voir à peu près, je dirais, il faut en tout cas aller jeter un œil sur tous les sites qu'on va mentionner, ou voir comment ils sont eux-mêmes organisés, quel degré de pertinence ils ont par rapport à la thématique, etc.
C'est vrai.
Donc c'est un travail colossal.
Le travail de construction des annuaires, et vous avez raison de le souligner, un travail immense. Il s'agit d'un travail de catalogage, il s'agit de répertorier tout ce qui se trouve sur le web, j'ai presque envie de dire à la main. Donc il s'agit d'équipes d'indexeurs.
Mais ce n'est pas très différent de celui qui rédigeait la fiche dans une bibliothèque.
C'est exactement le même travail. Enfin, exactement. Ça se ressemble très fort au travail de catalogage qu'on trouve en bibliothèque. Il s'agit d'aller visiter le site Internet, de regarder de quoi ça parle. À côté de son adresse, remplir une petite fiche sur laquelle il y a un titre, il y a une description, et d'aller le classer dans une des catégories thématiques qui constituent l'annuaire. C'est donc un très très gros boulot qui assure quelque part une qualité au niveau de la description, puisque la description est faite par un être humain qui va pouvoir se rendre compte de ce qu'il y a effectivement sur le site Internet. Et ça, c'est l'atout des annuaires. C'est un travail humain, donc il est de qualité. Mais par contre, vu que c'est un travail humain, il est d'une part coûteux et d'autre part, il prend du temps. Même si les personnes qui travaillent pour des annuaires comme Yahoo arrivent à développer des habitudes qui les font aller très très vite, le nombre de sites internet va grandir de manière exponentielle et les annuaires vont rapidement se faire distancier d'une part par la masse d'informations et d'autre part par un autre problème qui est le fait qu'il faut trouver les nouvelles pages. Hein. Donc il y a toute une série d'astuces techniques qui vont être découvertes, notamment faire de la veille sur les fameux forums de discussion, puisque typiquement quand quelqu'un crée un site ou une nouvelle page, ben, il va le signaler publiquement et il va le signaler préférentiellement dans des sites qui parlent de nouveautés. Donc les personnes qui maintiennent les annuaires vont faire de la veille à ce genre d'endroit. Vont prendre l'habitude d'aller consulter sur les sites internet les rubriques qui parlent de nouveautés, s'abonner à des listes de diffusion de nouveautés pour se tenir au courant de où il y a du neuf à aller répertorier, à aller décrire. Mais bon, c'est un travail qui est sans cesse dépassé par le
par
nombre,
définition, disons-nous.
Par définition.
Alors, ils sont en retard d'une...
Ils sont toujours
d'un mouvement.
Enfin, toujours, hein. Alors, l'indexation des sites internet, qu'elle soit humaine ou automatique, va toujours être en retard, mais une machine peut aller plus vite, évidemment, qu'un être humain. Et ça me permet d'introduire quelque chose qui va apparaître un peu à la même époque, mais quand même quelques mois après les annuaires, c'est l'idée de confier ce travail de catalogage à une machine. Alors ça va arriver d'un tout autre endroit. Au départ, le premier moteur de recherche qui va vraiment faire parler de lui, qui va marquer un point au niveau de son efficacité, va provenir en fait d'un univers qui n'est qu'indirectement concerné par le développement d'Internet. Les premiers annuaires arrivent, il y a des tentatives d'essayer de faire comme les annuaires de manière automatique, mais au début, ce n'est pas tout à fait convaincant. Et à cette époque-là, en 1995, une entreprise de matériel informatique se prépare à annoncer la sortie d'un nouvel ordinateur, toujours pas un ordinateur de bureau, hein, une grosse machine. La firme en question, c'est DEC qui va lancer un ordinateur baptisé Alpha et se pose la question de savoir comment ils vont pouvoir organiser quelque part la campagne de lancement de l'Alpha. Et la personne à qui on confie le projet d'annonce de l'Alpha, c'est Louis Monnier, à qui on va demander d'imaginer une manière de faire la démonstration de la puissance de cette machine. Et Louis Monnier, qui s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans le domaine des nouvelles technologies, il se dit ce serait pas mal de faire un outil. Il se dit il faut qu'on puisse montrer, en particulier dans le secteur des bases de données, qui était un secteur dans lequel ce type de machine pouvait apporter un plus, il faudrait une grande, grande base de données sur laquelle on pourrait montrer que cette machine est vraiment performante. Et il y a l'idée de se dire, tiens, on va essayer de répertorier tout ce qui se passe sur le World Wide Web, d'écrire un petit programme qui va répertorier ce qui se passe sur le World Wide Web. Et c'est la base de données qui découlera de ce travail de catalogage sera un bon exemple d'application et un bon coup de pub pour l'ordinateur en question. Et l'application dont on est en train de parler, c'est en fait le moteur de recherche AltaVista, qui va être donc lancé au départ un peu comme un produit de pub pour l'Alpha par DEC. Et ce moteur de recherche va, à l'époque, très vite gagner des parts de marché, si on peut parler ainsi. En tout cas, séduire beaucoup d'utilisateurs qui trouvent que cet outil est certes moins fin que les annuaires. Il ne propose pas une ventilation en thématique avec une description humaine pour chaque site, mais il est beaucoup plus réactif à l'apparition de nouvelles pages sur Internet, puisque la recherche est automatisée par un programme qui va suivre automatiquement tous les liens, hein, on a dit que le World Wide Web, c'était aussi tous ces petits liens qu'on peut suivre, eh bien le programme va suivre tous les liens, et chaque fois qu'il rencontre une nouvelle page, il va stocker une partie de son contenu dans un premier temps, le début de la page dans un premier temps, dans sa base de données, ce qui fait que l'on peut interroger cette base de données comme un moteur de recherche, comme les moteurs de recherche qu'on utilise aujourd'hui, en saisissant quelques mots et en ayant des dizaines et des dizaines de résultats qui sont proposés, c'est-à-dire les pages qui contiennent les mots en question. Et donc on voit qu'on franchit une étape en termes d'histoires, de recherches d'informations sur Internet, après les annuaires, arrivent les moteurs de recherche.
Quelle est la différence que vous faites vraiment entre l'annuaire et le moteur de recherche ?
Donc, la différence principale, je dirais, c'est que le travail, dans un premier temps, est confié à des êtres humains pour les annuaires, alors qu'il est automatisé pour les moteurs de recherche. Que ce travail n'est pas de la même nature, puisque dans le cas d'un annuaire de site Internet, on classe les sites Internet et on les décrit, alors que dans le cas du moteur de recherche, on va indexer le contenu. Donc, on est face à des outils qui, en fait, fonctionnent différemment. Et donc, ils vont avoir chacun les avantages et les points faibles de leur fonctionnement. L'avantage d'un annuaire, c'est que si vous voulez acheter une voiture et que vous pensez à une marque de voiture, vous regardez où le site de ce constructeur de voiture est classé dans un annuaire, vous allez avoir le site de tous les autres constructeurs, donc même d'une marque auquel vous n'auriez pas pensé. Donc l'annuaire a cette vertu, vu que les sites parlant de la même chose sont rangés au même endroit, ben vous pouvez par hasard tomber sur un site auquel vous n'auriez pas pensé. Alors que dans les annuaires, vous ne trouvez que ce que vous cherchez. La force du moteur de recherche, c'est de montrer toutes les pages qui sont indexées, enfin qui contiennent un mot que vous avez recherché. Donc, on ne vous montrera pas ce que vous n'avez pas cherché, mais l'avantage, c'est qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats à une simple requête. Maintenant, le problème que ça va poser, c'est le tri dans
la pertinence de tout ça. Voilà, hein. Voilà. Et là, on franchit une autre étape avec un nom qui va évoquer beaucoup de choses à beaucoup de monde.
Tout à fait. Hein, l'innovation suivante va procéder à essayer de trier ces résultats. Alors, il va y avoir quelques petits tests, peut-être d'autres initiatives. Donc, j'essaye de souligner là qu'il n'y a pas que deux grands acteurs dans les moteurs de recherche. Mais le moteur de recherche qui va vraiment... Celui qui va faire une innovation, qui va changer la donne, c'est le moteur de recherche Google. Le moteur de recherche Google est en fait lancé peu de temps, une année après AltaVista, par Larry Page et Sergey Brin de l'université de Stanford.
Et Brin qui est né en Union soviétique, peut-être le rappeler aussi.
Tout à fait. Et donc, on est là dans un secteur qui n'est plus... on est face à des étudiants universitaires qui n'ont plus une préoccupation de faire de la pub pour une machine. Ce n'est pas ça qui fait la différence entre AltaVista et Google. La différence va être précisément la façon dont ils vont envisager ce qu'est un lien sur Internet. Ils vont faire une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne dis pas qu'elle est particulièrement pertinente, mais elle va donner des résultats intéressants. Ils vont comparer le lien dans une page Internet à une citation. Le fait de dire...
Oui, donc ils viennent du monde académique
aussi,
bien sûr.
C'est des étudiants universitaires, ils vont se dire, mais tiens, finalement, lorsque un site Internet fait un lien vers un autre site Internet, c'est un petit peu comme s'il le citait. Et comme s'il disait, ce site est un site qui vaut la peine qu'on le visite, qui est précisément la façon d'envisager la citation dans le cadre d'un article scientifique. Lorsque vous écrivez un article scientifique, vous appuyez votre démonstration à une série d'autres articles scientifiques et donc vous les citez. En les citant, vous dites bah, « j'apporte, enfin, je considère que ces autres articles sur lesquels je m'appuie sont crédibles ». Et donc la citation permet à la fois de consolider l'article qui cite et d'apporter du crédit à l'article qui est cité. Ça marche dans les deux sens. Et le coup de force de Page et Brin, c'est de se dire « les liens sur Internet, c'est comme les citations ». Ça marche dans un sens, mais ça a un effet de crédibilité qui peut marcher dans les deux sens. Or, on a vu que depuis la naissance du lien intertextuel, même à l'époque où Douglas Engelbart avait commencé à faire des trous au fond dans le bas des petites fiches cartonnées à l'époque de la mécanographie pour pouvoir faire passer les aiguilles à tricoter de l'époque de la mécanographie, les liens entre les documents sont directionnels. Donc, on part d'un document vers un autre, mais quand on arrive à cet autre document, on n'a aucun moyen de savoir combien de documents font un lien vers lui et qui fait un lien vers lui. L'idée des concepteurs de Google, c'est de dire, tiens, on va faire une base de données de type moteur de recherche, mais on va s'intéresser non seulement aux mots qui sont contenus par la page, mais aux liens qui existent entre les différentes pages. Ainsi, lorsqu'on aura une base de données relativement complète, on pourra interroger cette base de données pour savoir, à partir d'une page, combien d'autres sites ou d'autres pages citent cette page et qui ils sont. Et ainsi, on pourra évaluer ou avoir un indice de la crédibilité, avec des guillemets, de la page en question. Alors, le but des concepteurs de Google n'est pas vraiment la crédibilité. Leur but à eux, c'est de pouvoir classer les pages. Et que l'on trouve que le raisonnement soit fondé ou non, le but n'est pas de dire que sur Internet, on a un phénomène qui est du même ordre que la discussion scientifique, ben, il faut bien reconnaître que classer les pages en fonction du nombre de liens qu'ils reçoivent, et même mieux que ça, classer les pages non seulement en fonction du nombre de liens, mais et regarder aussi d'où viennent les liens. Hein. Avoir un lien vers sa page qui vient d'un site institutionnel ou d'un obscur site de discussion fréquenté par très peu de monde, ce n'est pas la même chose. Et donc, on peut pondérer ces sites. Donc, les sites qui nous citent peuvent être pondérés en fonction du nombre de sites qui les citent eux-mêmes, si vous me suivez. Hein. Donc, on peut ainsi mettre un poids, en quelque sorte, à chacune des pages en question. Mieux, on peut combiner ce poids à la pertinence pour la recherche qui a été effectuée par l'utilisateur. Donc, on peut trier les résultats d'une recherche. Et cette façon d'envisager les choses va être baptisée par les concepteurs de Google le PageRank, donc le tri par page ou de page, avec un jeu de mots.
Ou le classement des pages.
Ou le classement des pages. Et donc, il y a un jeu de mots, hein, puisque c'est Larry Page qui conçoit cette façon. Donc, c'est le classement à la page, et le nom de son concepteur, c'est page. J'évite d'avoir l'accent pour transmettre le jeu de mots. Et donc, c'est un tri ou un classement qui permet de mettre les pages dans un certain ordre. Et donc, ça permet de résoudre, en partie en tout cas, le problème auquel étaient confrontés les annuaires jusque-là, c'est que il rapatriait beaucoup plus d'informations que les annuaires, mais il y avait le problème de la pertinence de ce qu'il rapatriait. Et avec cette invention, popularisée par Google et affinée dans le tri des pages de Google aujourd'hui, il n'y a pas que ce critère-là, mais c'est le critère qui a fait connaître Google, on peut avoir un classement des pages qui a fait le succès de Google et qui a fait que, dans une grande mesure, Google a pris le pas sur AltaVista.
Nous terminerons cette histoire d'Internet avec Christophe Lejeune la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver son récit dans l'ouvrage Internet 2.0, une histoire politique d'Internet, publié aux éditions du Centre d'Action Laïque. L'émission d'aujourd'hui est due à Marie-Noëlle Dumoulin et André Remy. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Retrouvez Mémo le samedi de 17h15 à 18h.
La première.